Bonjour à tous. Vraiment, j'ai trouvé cette première partie fantastique. Je sais pas vous, mais moi, rien que ça, je peux repartir. Il y avait une présence de Dieu, il y avait un amour si puissant. J'ai beaucoup pleuré, c'est rare. Alors, ce matin, j'ai pensé, enfin, nous avons pensé, on est plusieurs en fait, à penser au thème, que c'était une bonne idée de partager sur le Notre Père. Vous savez que cette prière célèbre, on l'a fait depuis un certain temps dans le culte, parce que cette série sur l'offensive de prière, on voulait un marqueur, un repère, et on a choisi cette prière du Notre Père. Et c'est intéressant de voir que finalement, il y a plein de choses qu'on fait comme ça qui peuvent devenir un peu mécaniques. Et moi, j'ai grandi dans l'Église catholique. Donc le Notre Père, ça faisait partie voilà, des standards hein, quand on veut faire sa communion, etc. Mais finalement, on peut faire des prières sans s'être jamais arrêté sur le sens des choses. Alors c'est ce que je vous invite ce matin à faire. C'est de prendre juste un temps pour s'arrêter et voir finalement le contenu du Notre Père. Alors, il n'y a pas beaucoup de mots, hein, c'est une prière assez courte, mais finalement, en s'arrêtant, on réalise qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et donc, je ne vais pas tout dire ce matin, j'ai fait un choix, parce que c'est un concentré, en fait. Mais juste avant, je voudrais parler du contexte dans lequel Jésus a enseigné à ses disciples le Notre Père. Je ne sais pas si tout le monde sait dans quelles circonstances Jésus a parlé du Notre Père. Il y a deux passages en fait dans les évangiles, c'est un dans Matthieu. Matthieu, un passage qui est très célèbre, s'appelle le Sermon sur la montagne. Et puis un autre passage dans Luc. Et je vais prendre le passage qui est dans Matthieu parce que c'est le plus complet. Alors j'avais pensé comme petite accroche, parce qu'on aime bien accler, mais j'ai pas trouvé, donc il n'y aura pas d'accroche ce matin, mais c'est une vidéo qui m'a touché il y a des années. C'est une enfant en Afrique, je crois que c'est en Ouganda, où ils vivent des miracles, enfin à l'époque ils vivaient des miracles fabuleux. Et c'était une enfant qui priait le Notre Père, en anglais, Heavenly Father, mais c'était tellement touchant, puissant. Et je me disais, mais là, il y a vraiment du sens parce que quand on prie notre Père, on est comme un enfant devant son Papa céleste. Et bon, je n'ai pas la vidéo, mais je vous laisse imaginer. Alors, Jésus, en fait, quand on s'arrête sur sa vie, c'est passionnant. Pour ceux qui aiment étudier, il n'y a pas de hasard dans ce que fait Jésus. Et il y a quatre évangiles parce que ça dresse quatre portraits complémentaires de Jésus. Et dans Matthieu, Jésus fait quelque chose qui s'est déjà passé dans l'Ancien Testament. Jésus monte sur une montagne et il y a une foule de ses disciples qui le suit. Et là, sur cette montagne, il va se mettre à enseigner. Ça s'appelle le Sermon sur la montagne et c'est Matthieu 5 à 7, quelque chose comme ça. Et en fait, dans cet épisode, Jésus rejoue Moïse. Vous savez que Moïse, il est monté après la sortie d'Égypte. Ils sont arrivés au Sinaï, et puis là, Moïse est monté tout seul sur la montagne, et là, Dieu lui a donné les 10 commandements, donc des tablettes avec 10 commandements gravés par la main de Dieu. Et ensuite, il y avait le peuple qui attendait Moïse en bas de la montagne, et Moïse a enseigné le peuple. Et on sait que la loi a été le fil directeur, a été la ligne directrice pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Dieu, pour toute son évolution, tout son avenir. Et notamment pour entrer en Canaan, pour vivre et aller prendre cette terre promise. Et là, Jésus, eh bien, il rejoue Moïse. Il rejoue Moïse et il va beaucoup parler de la loi dans le sermon sur la montagne. Et on pourrait dire, la loi, c'est bon, c'est fini, c'est derrière, etc. Et en fait, pas du tout. Jésus est très surprenant. Il est là et puis il dit, mais en fait, la loi, vous ne l'avez pas comprise. Et en fait, vous pensez qu'elle est là, mais en fait, elle est là. Alors, je vous laisse relire ça. Et le Notre Père est vraiment inscrit dans ce temps où Jésus s'adresse au peuple de Dieu. et pour lui redonner une ligne directrice pour toute sa mission. Et ce qui est frappant dans ce passage du Sermon sur la montagne, c'est qu'il y a statistiquement un concentré du mot « Père ». C'est-à-dire que Jésus parle de Dieu comme le Père. Mais c'est vraiment un concentré. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit dans les évangiles où il y a une plus grande concentration du mot « Père ». Et une deuxième caractéristique de ce sermon, c'est qu'il y a l'idée omniprésente du royaume de Dieu. Et dans un sens, Jésus est en train de parler au peuple du royaume de Dieu et il parle à des enfants du Père. Donc vous voyez que depuis les Juifs, qui eux avaient une connaissance de Dieu comme l'Éternel, comme Yahvé, avaient déjà une certaine connaissance de Dieu, il y a eu l'évolution avec Jésus. Alors mon but ce matin, en vous parlant du Notre Père, qui est vraiment la prière dans cet enseignement de Jésus, où il dit voilà comment vous devez prier, mon but ce matin, c'est qu'on puisse s'arrêter sur les mots de cette prière si connue pour redonner de la force à notre prière, pour redonner de la direction et de la précision à notre prière. Et puis, un deuxième but pour moi, c'est que j'aimerais qu'à travers ce temps, Dieu touche le cœur de son Église, de son peuple, de nous, ses enfants. Je sais que Dieu, et il a déjà commencé à le faire à travers la louange, il touche nos cœurs individuellement parce qu'il nous aime tellement. Mais je voudrais aussi, j'ai prié pour ça, c'est qu'il touche notre Église, l'Église, la communauté. Donc ce matin, je vous invite à venir sur la montagne, on imagine. Et il y a Jésus qui va parler, qui va nous parler. Et bien sûr, Jésus, ce n'est pas moi, c'est cette parole qu'on va sonder ensemble. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, notre, un petit mot notre, un petit mot qui peut passer inaperçu, hein. On peut très vite passer, mais quand on s'y arrête, il dit des choses, ce notre. Jésus n'a pas dit, vous pouvez prier comme cela, mon Père qui est aux cieux, mais il y a ce notre pour nous rappeler qu'on n'est pas tout seul, mais qu'on est ensemble, qu'on est une famille. Vous savez, on a cette tendance en tant que chrétien à dire Dieu et moi et Dieu, et Dieu et moi, et moi et moi. Et finalement, on considère que ce lien très fort entre Dieu et moi, on le vit de manière intense, et on a un peu tendance à oublier que c'est Dieu et son peuple, et que nous faisons partie de son peuple. Et ça, c'est très très fort pour Dieu. C'est comme un leitmotiv dans toute la Bible, de A à Z, de l'Ancien Testament à l'Apocalypse. Je veux un peuple. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Il y a donc toujours cette dimension ensemble, communauté, peuple de Dieu. Et c'est important que dans notre prière, on n'oublie pas cela. Bien sûr, la prière individuelle n'est pas oubliée, parce que juste avant, Jésus dit... Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie ton Père là dans le lieu secret. Donc ça a tout à fait sa place. Mais il y a aussi cette prière communautaire du peuple de Dieu ensemble. Et je trouve magnifique ce qu'on vit depuis un an maintenant, où il y a eu un élan de prière au milieu de nous. Et vous voyez dans les annonces, là, comme présenté si bien Yaël, il y a quasiment tous les jours des moments où on se réunit dans ce lieu pour prier ensemble. Et il y a vraiment une force là-dedans. Quand on voit l'histoire de l'Église dans les Actes, on voit que ce ne sont pas juste des hommes qui avancent et qui font des percées. C'est l'Église qui avance. Et dans les Actes, ça se voit très fort. Il y a un moment de prière ensemble dans les Actes où les disciples ont été maltraités par les responsables juifs. Ils ont été battus, etc. Ils en ressortent de là et ils sont tout joyeux parce que Saint-Esprit est en eux. Et puis ils se réunissent, ils prient et là... Ils demandent à Dieu ensemble que Dieu leur donne de l'audace, que Dieu leur donne de la force pour continuer à témoigner malgré la difficulté. Et là, le sol tremble, ils sont revêtus du Saint-Esprit et ils avancent. Ils ont prié ensemble. Il y a une force et Dieu veut que son peuple avance. Son peuple, ils avancent ensemble. Notre Père, le Père. Alors Jésus ici fait quelque chose de nouveau. Les Juifs ont eu une révélation unique, extraordinaire de Dieu. Parce que Dieu leur a révélé son nom. C'est le Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, Jéhovah. Après, il y a tout un tas de traductions dans les Bibles protestantes, c'est l'Éternel. Mais c'est une révélation du nom. Dieu s'est révélé de manière très précise et particulière à son peuple. Donc c'était déjà un grand cadeau. Mais ce que fait Jésus, c'est unique. Et c'est un bouleversement. Quand il enseigne aux gens, aux enfants du royaume, il leur présente le Père. Et vous savez, Jésus même va plus loin. Le mot qu'il emploie quand il s'adresse à Dieu, c'est Abba. Ce mot qu'on a entendu ce matin peut-être dans la louange à certains moments. C'est de l'araméen. C'est un terme familier. C'est le petit enfant dans la maison, dans le cadre de la maison. Et quand il s'adresse à son papa, il dit Abba. C'est un terme familier. Et Jésus, on le voit, il vivait une relation intense avec son papa. C'était tellement précieux pour lui, cette relation. Et dans les moments les plus tendus de son ministère, comme quand il est au jardin de Gethsémané et qu'il sait très bien qu'ils vont venir l'arrêter et le mettre à la croix, là, on le voit, il tombe à genoux et dit « Abba, Père, si c'est possible, écarte de moi cette coupe. » Et là, on voit, c'est un cri du cœur. C'est quelque chose qui sort plus profond de lui. Et quand il s'adresse à Dieu dans une grande détresse, ce qui crie, ce qui sort de lui, c'est « Abba, Papa. » Mais plus que « Père », Jésus ne cesse de dire à ses disciples « Mon Père, votre Père, ton Père. » C'est comme s'il insistait pour nous dire « Prends-le, ce Père qui est le mien, il veut être le tien, prends-le. » Vous savez, Jésus, il est venu sur terre pour tout perdre, pour tout donner. Même sa vie, c'est peut-être le seul qui est venu sur la terre, non pas pour vivre, mais pour mourir. C'est contradiction. Mais il est venu pour tout nous donner. Et ce qu'il nous donne de plus précieux, ce qu'il nous a donné de plus précieux, c'est son Père. Les Juifs n'osaient pas. Ils étaient scandalisés quand il disait qu'il prétendait être le Fils de Dieu. Scandalisés ils étaient. Et Jésus est venu pour nous donner son Père. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir, l'autorité, en fait le mot c'est l'autorité, de devenir enfant de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus, le Fils, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Alors on voit là, dès le départ de cette prière, déjà deux mots, il y a déjà tant de choses qui sont dites en deux mots, notre Père. On voit qu'il y a une contradiction absolue, il y a un non-sens, il y a une absurdité de réciter le notre Père d'une manière mécanique, sans aucune émotion, d'une manière froide, d'une manière automatique comme une machine. C'est un non-sens. Les robots qui disent notre Père. Et je pense à ces moments tout simples où j'ai deux enfants, j'ai deux filles, et ces moments tout simples où quand j'ai pas vu mes filles lors de la journée, moi je suis assez papa poule, mais simplement je les prends dans mes bras et je les serre. Et rien que là, il y a beaucoup. Et je crois que ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est que quand on prie, on vienne vraiment comme ses enfants. On vienne avec ce cœur d'enfant. Et on vienne simplement se serrer dans ses bras. Rien que ça, il y a beaucoup déjà. Et c'est vrai que parfois, on peut être distant de Dieu. On sait, prier c'est bien, c'est une bonne chose, on désire prier, mais il y a quelque chose en nous d'un peu refroidi. Et on reste un peu à cette distance de Dieu. Parfois, c'est parce qu'on ne se sent pas digne, parce qu'on sait qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Et puis, il y a ce nuage de petite culpabilité, ou cette gêne qui est là. Mais aussi, c'est parce que parfois, on ne le connaît pas bien. Je me rappelle dans un groupe de jeunes, il y a quelques années maintenant, quand j'étais jeune à l'époque, il y avait une jeune fille, elle venait d'un contexte musulman, et elle vouvoyait Dieu. Et on sentait toute cette distance qu'il y avait entre Dieu et elle. Alors, elle le respectait, elle avait l'honneur, mais ce vouvoiement montrait bien cette distance qu'il y avait. Cette distance, Dieu est patient, et Dieu nous aime, il n'y a pas de souci avec cela. Mais cette distance, Dieu veut tout faire pour la diminuer, la diminuer, la diminuer. Et pour que plus nous connaissons, plus nous approchons de Dieu, plus nous devenons cet enfant de Dieu. Il y a un passage très puissant où Paul dit « Le Saint-Esprit est en nous ». C'est un esprit d'adoption qui fait de nous des fils et des filles. Et plus que cela, il met un cri en nous. Abba, il met le cri de Jésus. Abba, Père. Donc je crois qu'une des premières choses que nous dit le Notre Père, et rassurez-vous, je ne vais pas faire tous les mots parce que vous voyez que ça va prendre du temps sinon, mais la première chose qui m'a vraiment touché pour moi déjà personnellement et pour ce matin, c'est que l'amour est une clé, si ce n'est la clé avec la foi de la prière. Et on peut très bien venir prier sans cette conscience de l'amour. Que Dieu veut remplir notre cœur d'amour et que Dieu désire notre amour. Et que le premier contact dans la prière, ce n'est pas tant nos paroles, mais c'est l'amour. C'est le fait que quand je décide de prier, je me mets peut-être à un endroit et puis là je cherche Dieu et c'est comme si je me mets dans ses bras. La prière, c'est une relation avec Dieu. C'est un partage. La prière sans amour, c'est une communication. On s'échange des informations, on se dit des choses. Et là encore, il n'y a pas de problème pour Dieu. Dieu est tellement patient avec nous. Il est tellement plein d'amour. Mais la prière, pour qu'elle devienne une communion, a besoin de l'amour. Et vous savez, l'amour, déjà, fait plein de choses. Dans nos prières, on veut demander à Dieu « Et regarde, et n'oublie pas ceci, cela. » Et on déballe toute une liste de courses. On a tellement des besoins, on est tellement rempli parfois d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse. Et on veut dire à Dieu pour qu'il n'oublie rien. À moi, j'ai tendance à être comme ça parfois. Mais juste de venir et d'être connecté, d'être touché par cet amour, et là, beaucoup de craintes déjà s'en vont. On n'a pas besoin de tout dire à Dieu. Et l'amour déjà fait beaucoup. Alors quand je parle d'amour, je ne parle pas forcément d'une émotion et d'un sentiment. Bien sûr, je crois que Dieu aime toucher nos émotions et qu'on en a besoin. Mais ce n'est pas parce que l'émotion n'est pas là que l'amour n'est pas là. C'est vraiment quelque chose qui se joue dans la foi. C'est-à-dire, je viens et je sais, parce que la parole de Dieu le dit et que j'ai choisi de la croire, que Dieu est mon Père et que Dieu m'aime et que son amour est là. Et c'est parce que je me positionne dans la foi que cet amour qui est au-dessus de nous se déverse quand je prends ce temps seul ou avec mes frères et sœurs dans la prière. C'est une réalité qui se déverse dans notre vie par la foi, qu'on peut activer par la foi. Et parfois, l'émotion, les sentiments sont là, ils sont touchés, bouleversés, remués par l'amour. Et parfois, non, mais l'amour est là. Et je réalise que l'amour est vraiment une clé pour tout le reste de cette prière. Et notamment une clé pour comprendre, découvrir qui est Dieu. On peut rester sur une image de Dieu, un Dieu majestueux, un Dieu grand, un Dieu saint, mais l'amour transforme cette vision de Dieu. Et on découvre le Papa, le Père. Et une fois qu'on a découvert ce Papa et ce Père, alors Dieu se révèle à nouveau comme ce Dieu grand et majestueux. Et vous voyez, les Juifs connaissaient le chemin inverse, ce Dieu grand et majestueux. Ils avaient une crainte, ils avaient une peur parfois. Mais Jésus nous permet de connaître Dieu comme notre papa, et à partir de là, on connaît autrement le Dieu majestueux. Cette crainte qu'on peut ressentir en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus de peur dans cette crainte, c'est juste un profond respect pour sa grandeur. Une crainte mêlée d'amour. Que ton nom soit sanctifié. Alors c'est une formule un peu étrange, un peu mystérieuse, je trouve, que ton nom soit sanctifié. Apparemment, c'était aussi dans une introduction, une conclusion d'une prière juive très connue, le Kaddish. J'ai trouvé un texte qui explique un peu ça, c'est dans Ézéchiel 36, où il est dit, c'est Dieu qui parle à son peuple, « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, quand je serai sanctifié par vous sous ses yeux. » Ézéchiel 36, verset 23. « Je sanctifierai mon grand nom et les nations sauront qui je suis. » Et à la lumière de ce verset, je comprends qu'en fait, que ton nom soit sanctifié, c'est la demande à Dieu de se révéler. Fais-nous connaître qui tu es. Et d'ailleurs, la Bible Tob, traduction œcuménique, traduit « Fais connaître à tous qui tu es ». Et là, on voit une logique, en fait, où on s'approche de Dieu, où c'est l'amour qui nous touche, qui nous serre, et cet amour nous ouvre en nous tous les canaux pour mieux connaître Dieu. Et là, c'est la demande, « Seigneur, je veux te connaître plus. Seigneur, j'ai faim de toi et je veux te connaître. Père, révèle-toi. » Et vous voyez qu'il y a déjà un premier enseignement aussi intéressant, peut-être par rapport à notre pratique. Moi, quand je prie, souvent, je viens alors pour imager avec ma liste de courses. Et je fais une liste comme ça tous les jours, je note, et puis quand j'arrive devant Dieu, paf, je présente. Mais le premier enseignement, c'est que quand on prie, c'est Dieu d'abord. Et qu'en fait, la première chose que Jésus nous enseigne, c'est concentre-toi sur Dieu. Regarde-le. Et prier, c'est détacher notre regard de nous-mêmes, de notre situation, de ce qui nous tracasse, nous soucie, nous préoccupe, et fixer nos yeux sur Dieu. Et là, l'amour vient, la révélation de Dieu vient, et déjà, ça fait énormément de choses. Il y a l'apôtre Jean qui dit en 1 Jean 1, « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, nous en témoignons. » Jean était un apôtre qui a accompagné Jésus, un des 12. Et de fait, de vivre avec lui 3 ans, de voir ses miracles, de pouvoir le toucher, fait que son témoignage a été puissant. Beau. Mais je crois que nous aussi on peut voir Jésus, on peut l'entendre, on peut le contempler, on peut même le toucher de nos mains. Dans le sens que on peut vraiment le rencontrer à travers ces temps d'intimité avec Dieu, ces temps de prière. On peut vraiment le connaître. Et Pierre dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse, d'une joie indicible et glorieuse. Pour montrer qu'il y a vraiment une rencontre authentique avec Dieu, même si on n'a pas fait partie des temps de Jésus. Mais il y a quelque chose qui vient. Notre intimité avec Dieu, je crois, nourrit et rend puissant notre témoignage. Et c'est ce Dieu que nous connaissons, c'est le fait de connaître intimement, personnellement Dieu, Jésus, notre Père et le Saint-Esprit qui fait que notre témoignage a une puissance. Alors après, il y a série « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Donc là, on quitte Dieu, la personne de Dieu, et la prière s'oriente vers le règne de Dieu, sa volonté. Et ce qui apparaît de manière très claire dans les évangiles, c'est que le royaume de Dieu était vraiment le centre, le cœur du message de Jésus. Jésus n'est pas venu annoncer l'Église. D'ailleurs, même statistiquement, on le voit, l'Église, c'est 2-3 mots dans tous les évangiles. Mot royaume, il apparaît plus de 120 fois, de tête, mais c'est de cet ordre-là. Cherchez premièrement le royaume, dit Jésus, et tout le reste vous sera donné en plus. La cause de notre vie, la cause de l'Église, du peuple de Dieu, la mission de l'Église, c'est le royaume. Et ce n'est pas pour rien que c'est la première prière extérieure à Dieu qui vient. Jésus nous montre, il faut que cette aspiration, ce soupir, ce désir du règne de Dieu vienne. Il faut que ce soit au cœur de ta prière. Il faut que ce soit en premier, en tête de liste, après la personne même de Dieu. Après ce désir de connaître Dieu, le désir du royaume, du règne de Dieu, vient ensuite. Et ça montre bien la priorité dans le cœur de Dieu. Et si nos prières sont orientées vers le règne de Dieu, alors nos pensées aussi, et puis nos actes aussi. Donc on ne peut pas en fait vivre en tant que chrétien sans cet axe-là, cette directive-là très claire du règne de Dieu. Ce « vient », c'est comme un soupir. Il y a plusieurs « vient » dans le Nouveau Testament, et notamment à l'Apocalypse, se termine par ce mot « vient ». L'Église et l'Épouse disent « vient ». Il y a un soupir, il y a un languissement, il y a une attente fervente. Toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, dit Paul en Romains. Parce que ce qui est enfanté, ce qui est en train d'être enfanté, c'est le royaume de Dieu. Et la directive de Jésus dans ce sermon sur la montagne, c'est que nous, on soit focalisés sur ce but-là. Ensuite, donc ça, ce sont, je dirais, les affaires du Père, de notre Père. Hein, quand Jésus parlait à ses parents qui le cherchaient, mais où est-ce que tu étais et tout. Et Jésus leur répond, mais vous ne saviez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et ben, c'est ça les affaires du Père, c'est le royaume qui vient. Et après la personne de Dieu, après les affaires du Père, viennent nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Alors derrière le mot pain, on peut mettre tous nos besoins, bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui, le fait de se nourrir que de pain serait... Et on voit que c'est légitime, c'est bon, il n'y a pas de souci pour Dieu de prier pour nos besoins. Mais Jésus rappelle souvent, ne t'inquiète pas par rapport à tes besoins. Le Père sait de quoi tu as besoin. Donc pas besoin de tout lui dire. On peut tout lui dire, tout ce qui nous passe par la tête. Mais tu n'as même pas besoin de ça. Parce que c'est un père. Et moi, je suis un papa, j'ai 2 enfants, je ne vais pas laisser mes enfants manquer de quoi que ce soit. Et je n'attends pas qu'elles me demandent pour leur donner. Des fois, pour certaines choses, oui. Le Père sait de quoi tu as besoin. Cherche le royaume. Alors, il y a un mot, petit mot encore, qui est intéressant, c'est ce mot quotidien. Notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Et non notre pain pour la semaine ou notre pain pour le mois. Alors on voit ici que Dieu n'insiste pas, voire il restreint un peu son peuple dans l'idée de faire des épargnes, dans l'idée de réserver. Jésus dit d'ailleurs juste après la prière, « À chaque jour suffit sa peine, le lendemain s'inquiétera de lui-même ». En fait, avec Dieu, c'est comme si il y a cette insouciance, cette aventure au jour le jour, où on avance et Dieu nous donne au fur et à mesure. On retrouve exactement cette idée avec la manne, vous savez, ce pain qui venait du ciel pour nourrir le peuple quand il était dans le désert. Et la manne, en fait, Dieu l'a donnée pour le lendemain, mais pas pour 2 jours, sauf le week-end. Sauf donc quand c'était le Shabbat, pour qu'il respecte le Shabbat, il donnait double dose, mais il donnait jamais sur une semaine. Et la tentation et le péché d'ailleurs du peuple à ce moment-là, c'est que il y en a qui ont essayé quand même de faire des réserves. Alors pourquoi Jésus il dit ça? Le problème n'est pas d'épargner, en fait. Même si Dieu souvent demande au peuple de ne pas épargner. Mais le problème n'est pas épargner. Et dans d'autres endroits, je pense même les proverbes, on peut voir c'est même sage. C'est un acte de sagesse d'épargner. Le problème, c'est où est-ce que nous plaçons notre sécurité et notre confiance? C'est là le problème. Est-ce que c'est dans nos réserves, notre épargne, ou en Dieu? Et cette prière, elle nous invite, elle nous pousse à vivre notre vie dans une dépendance quotidienne avec Dieu. Dans une sécurité et une confiance placée entièrement en lui. Et de vraiment compter sur lui pour nos besoins. Seulement sur lui. Après, ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut. Travailler, enfin, prendre ses responsabilités, ça n'empêche absolument pas. Mais compter sur lui. Et dans un sens, on cherche toujours la sécurité. Ça, c'est l'inquiétude. Mais Jésus dit, alors, tu vois, avec ces mots qui vont droit au but et parfois de manière un peu cinglante, ce sont les païens qui recherchent cela. La sécurité en dehors de Dieu. Mais vous, trouvez votre sécurité en moi. Alors on voit dans ce moment du Notre Père qui a comme un crescendo. Vous savez, ces moments où quand on vient à Dieu, souvent c'est qu'on est motivé. Et pas que motivé juste pour la prière et pour lui, mais parce qu'on a des besoins, il y a quelque chose qui nous stresse, qui nous inquiète, etc. Et on voit ici un crescendo, il y a nos besoins physiques, le pain, et puis après il y a nos offenses, et puis après il y a le mal. Ça monte comme ça en crescendo. Pardonne-nous nos offenses. C'est intéressant de voir que c'est la seule demande que Jésus commente après le Notre Père. Et c'est la seule qui concerne les relations humaines. Comme si finalement, le cœur de tous nos besoins en termes de relations se situe au niveau du pardon ou se règle au niveau du pardon. Donc il y a là une clé que Dieu donne, très très importante, et même il la commente pour dire, si vous n'avez pas compris, je le redis encore une fois. Et là je pense que ça nous invite à prier pour nos relations, ou pour les relations qu'on regarde, qu'on observe autour de nous, parce qu'on est appelé à être des artisans de paix. Délivre-nous du mal. Alors c'est dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça fait écho à ce que Jésus dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémané, donc juste avant la croix. Il dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Dans cette prière aussi, Jésus nous avertit qu'il y a un combat, que nous sommes dans un combat, malgré nous, et que nous devons en être conscients et être responsables vis-à-vis de ce combat. Le combat de la tentation, le péché, mais aussi au-delà de cela, le diable qui rôde et qui veut nous détruire. Ce diable qui hait les enfants de Dieu, ce diable qui fait la guerre au peuple de Dieu. Et nous sommes dans ce combat. Et donc dans nos prières, ne pas oublier, mais être vraiment conscient qu'il y a cette dimension-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le mot délivrer dans le Nouveau Testament, a uniquement pour sujet Dieu et uniquement pour objet les hommes. C'est-à-dire que c'est vraiment Dieu seul qui peut nous délivrer du mal. Et que c'est cette puissance d'en haut dont a besoin le peuple pour être gardé. Parfois, nous, on peut manquer de discernement dans nos prières. Et on prie pour nos besoins. On prie avec, à la base, nos inquiétudes. Et puis on pense que ça va se régler comme ça, comme ça, comme ça. Donne-nous de l'argent, enfin, des choses comme ça. Mais c'est important qu'on discerne aussi au-delà et qu'on prie sur ces intentions mauvaises que le diable, les démons ont par rapport à notre vie. Ça demande du discernement, mais nous sommes responsables. Et c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et ce qui est fort, c'est que cette prière qui commence par Dieu se termine avec Dieu. Et elle se termine dans une proclamation. Là, on dit ce que Dieu est, on dit ce que Dieu fait. On proclame des choses. Et le simple fait de les proclamer, c'est une puissance spirituelle. C'est une puissance dans l'esprit. C'est une puissance en face de ce mal et de ce diable et de ces esprits méchants qui nous font la guerre. C'est une puissance. C'est toi qui règnes, Seigneur. C'est toi qui as la victoire. C'est toi qui es ma lumière, etc. Donc on voit que la prière que propose Jésus à ses disciples. Alors bien sûr, le Notre Père est un condensé, le Notre Père c'est comme une trame, mais il donne les éléments essentiels. Et on voit dans l'ensemble, si je pouvais résumer cette prière du Notre Père, je dirais la première partie c'est « Viens au Père et cherche-le pour lui, cherche cette révélation de Dieu, cherche à connaître ton Dieu ». Finalement, notre premier élan quand on vient à Dieu, c'est pour lui. Ce n'est pas tant pour nos besoins, mais pour lui, pour le connaître. Et de vraiment se connecter à ce papa et recevoir cet amour par la foi jusque dans nos émotions. Et la deuxième partie, c'est « Prie pour les affaires du royaume, qui sont tes affaires en tant qu'enfant de Dieu, les affaires de ton Père. Prie pour cela. Prie pour que son règne avance. Prie pour que sa volonté soit faite dans ta propre vie, à travers ta propre vie, tout autour de toi. Prie pour cela. C'est ça ta priorité. Ce ne sont pas tes besoins. C'est son royaume. C'est sa mission. C'est ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est le salut de tous ceux qui sont autour de nous. Prie pour cela. Et ensuite, prie pour tes besoins. Je suis là, ne t'inquiète pas. Et ok, prie, vas-y, dis-moi. Besoin matériel, besoin relationnel, prie pour ton combat. Prie pour le guerrier que tu es. Prie par rapport à ces ennemis qui sont autour de toi et que tu discernes. Et enfin, adore-le. Proclame qui est Dieu. Alors je voudrais que voilà, cette prière nous inspire, ces quelques mots que j'ai pu dire dessus, puissent nous inspirer dans une autre profondeur quand on prie le Notre Père. Et je voudrais juste terminer en m'adressant à l'Église. Et Jésus a dit à son Église, Jésus disait à toutes ces personnes qui sont montées sur la montagne avec lui, « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et dans ce magnifique passage, on pourrait même faire une correspondance entre les 10 commandements. Il y a 8 béatitudes. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. C'est nous. C'est son peuple. C'est ce que Dieu veut mettre dans notre vie. Alors, pour résumer, je pense, j'avais juste une pensée, c'est pour ce matin en particulier, je voudrais vraiment nous encourager à mettre l'amour au centre de notre prière. Je crois que tout est là, tout démarre là, c'est vraiment la clé qui permet à tout le reste de devenir encore plus puissant, plus efficace. L'amour de notre Père au centre de notre prière. Soyez bénis.